Vous êtes sur Studio ZEF à Blois ou Radio Béton à Tours et c'est l'heure de Feuilles Vives, l'émission de reportage entre ville et campagne. Pour sa 26e émission, Feuilles Vives vous fait remonter le temps de plusieurs millénaires et la Loire sur une bonne trentaine de kilomètres. Aujourd'hui, reportage sur l'association Archéologie pour tous et son archéo-village de Saint-Laurent-Nouan, une vaste entreprise de reconstitution d'habitats pré- et proto-historiques dont on vous reparle dans un instant. En 1989, la construction imminente d'un lotissement sur le coteau de Muide-sur-Loire entraîne l'ouverture d'un chantier de fouilles avec des traces d'occupation humaine allant de la fin du Paléolithique à l'âge du bronze, soit de 8000 à 750 avant notre ère. Au même moment, l'association Archéologie pour tous est fondée afin d'ouvrir les nouveaux chantiers de fouilles aux adolescents. Depuis, elle s'est développée pour proposer ateliers pédagogiques et chantiers de construction à des publics plus variés. Mise en valeur d'un pan méconnu du patrimoine ligérien, réflexion sur la pédagogie, sur l'aménagement paysager, sur la vie et le travail en collectif, ainsi que sur les traces et les déchets que l'on laisse aux générations futures, et ce, à quelques encablures d'une centrale nucléaire. L'association Archéologie pour tous, son archéo-village et ses habitats de chasseurs-cueilleurs soulèvent plusieurs enjeux cruciaux pour nos sociétés de bosseurs-jouisseurs. On écoute Marie-France Creusillet, présidente d'Archéo pour tous, et Aude Chevalier, chargée des activités pédagogiques.
Alors bah, évidemment, c'est toujours des activités qui tournent autour de l'archéologie, mais souvent avec les enfants, il faut que ce soit des activités où ils participent à quelque chose, où ils touchent. Donc du coup, ça va être aussi bien faire de la poterie et raconter du coup par là le néolithique, qu'est-ce que c'est. Voilà, on parle beaucoup en faisant des choses en fait. Donc à la fois là, comment on fait des poteries, pourquoi on a commencé à faire des poteries, parce qu'il fallait commencer à faire des stockages pour le grain, parce qu'on a commencé à domestiquer les plantes et notamment les céréales, etc. On fabrique des sagaies, on fait des séances de tir au propulseur sur des cibles, enfin des rennes, des trucs comme ça. Pour voilà, c'est compliqué quand on est chasseur-cueilleur, il faut aller à la chasse, il faut aller cueillir des choses pour se nourrir et ça prend du temps et en plus il faut être adroit, il faut être agile et... Voilà, de même par exemple aussi faire de la mouture de grains sur des meules à main. T'imagines le temps qu'il faut pour faire assez de farine pour faire ton pain pour les tartines du matin. Voilà, et donc il y a eu d'autres périodes dans la vie des hommes où c'était beaucoup plus compliqué de vivre et de se nourrir et que finalement le trois quarts du temps était passé à des activités autour de l'alimentation.
La préhistoire, c'est quand même quelque chose qui est assez abstrait pour nous parce que c'est loin chronologiquement et puis nos modes de vie ont quand même beaucoup changé depuis. Donc c'est vrai qu'à l'école, quand on parle de préhistoire de manière théorique, bah, ça parle pas forcément tellement aux enfants, alors que pouvoir faire la manipulation, faire des ateliers, je pense que ça leur permet plus de se rendre compte concrètement de ce que c'est que la préhistoire. Alors l'archéo-village, ça permet de leur montrer les différents habitats qu'il y avait à l'époque, et donc d'être un peu plus immergé dans l'esprit de la préhistoire, on va dire. Ça, c'est un peu un cadre, un décor, on pourrait dire, ce qui permet, je pense, de travailler encore plus l'imaginaire. Et ça, pour les enfants, c'est intéressant.
Quand les jeunes viennent construire une maison néolithique avec le travail du bois, ils vont certes apprendre le travail du bois, mais du coup, les jeunes, c'est des ados par exemple, qui viennent depuis plusieurs années, le néolithique, ça y est, ils connaissent quoi. C'est à force d'en discuter régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, c'est toujours englobé dans un discours qui va être ponctuel au moment où on fait une activité, qui va être à un moment donné, il y a un archéologue qui va venir faire une causerie, une discussion ou une petite conférence sur le camping un soir. Et puis, il y a toujours un discours qui est mêlé à tout ça pour raconter comment ça se passait quoi. Il va y avoir bientôt les journées nationales de l'archéologie. On va essayer de faire venir un conteur dans les après-midi, enfin on va faire deux, le samedi et le dimanche après-midi. Et ben un conteur qui raconte une histoire devant le tipi avec un public devant, ben ça aussi c'est une façon de reconstituer la vie à la préhistoire finalement. Alors évidemment que les contes qui seront racontés là ne seront pas forcément ceux de, de la préhistoire, mais c'est pas le propos. Le propos, c'est plus de dire on écoute quelqu'un qui raconte des histoires, que c'était dans des sociétés orales où il n'y avait pas d'écriture et que les transmissions se faisaient comme ça, que ce soit de valeurs, d'histoire ou de religion ou de... De même que aussi on a aussi des façons de discuter sur tous les déchets, puisque dès qu'on est d'un homme et qu'on vit, on produit des déchets. Mais ceci dit, autant que les oiseaux, autant que d'autres animaux qui vont faire des crottes, qui vont gratter les écorces, qui vont faire différentes traces qu'on peut voir. Voilà, nous, c'est la même chose, sauf que plus on a évolué, plus on a habité, plus on a été nombreux aussi, grâce aux évolutions liées à l'agriculture et tout, à la domestication. Et plus on a fait... on a fait beaucoup de déchets, ou alors on a beaucoup modifié le paysage. Et ça, c'est toujours intéressant d'en discuter pour que les jeunes se rendent compte vraiment de ça, de savoir pourquoi, comment, et voilà. Dès qu'on vit, on produit des traces, on produit des déchets. À nous de faire attention à ce que les déchets ne soient pas toxiques pour le reste de l'environnement et de modifier le paysage de manière consciente. En tout cas, parce qu'on sait que, voilà, à l'heure actuelle, on ne peut pas faire autrement que de modifier le paysage, de toute façon, mais en pleine conscience, de savoir ce qu'on fait, pourquoi, et donc d'apprendre.
En fait, je suis la personne qui s'occupe des ados pour l'atelier construction. Et là, bah, moi, mon rôle, c'est d'essayer d'amener des ados à comprendre qu'en fait, ils savent plus de choses que moi et qui peuvent m'aider à construire une maison du néolithique ancien.
Alexandre Brie-Devernay, salarié en charge des reconstitutions de l'archéo-village.
Ça peut être du clayonnage, ça peut être du torchis, ça peut être du façonnage, ça peut être de l'assemblage, c'est hyper varié. Tu vois, une construction, c'est un truc qui fait appel à beaucoup de champs de compétences. On fabrique une maison du néolithique ancien, et on fait pas ça juste comme on ferait des cabanes. Tu vois, on fait ça parce que dans notre équipe, on a des archéologues qui ont fait des fouilles. Il se trouve que dans ces fouilles-là, on a trouvé des emplacements, des trous de poteaux de maisons anciennes, qui sont des maisons du néolithique ancien. Et du coup, la démarche archéologique, c'est de reproduire des constructions qu'on a pu trouver en fouille. L'archéo-village, c'est à la fois un outil pédagogique, puis c'est aussi un outil scientifique, de manière à essayer d'expérimenter des choses pour pouvoir les visualiser. On trouve, nous, sur le terrain, quand on fait des fouilles, on trouve que des trous, quelques vestiges, des artefacts, des choses comme ça, mais on n'a pas la chance d'être dans un milieu humide où on retrouve des poteaux, des encastrements, du bois, des choses comme ça.
Vous avez que le négatif en fait.
Exactement, on a que le négatif.
L'empreinte sur le sol.
C'est ça.
Ok. Donc, est-ce qu'on peut aller la voir cette maison?
Ouais, on peut aller la voir. Construire une maison du néolithique ancien, à la limite, ça a déjà été fait. Après, est-ce qu'on a déjà construit une maison comme celle-là de la manière, de cette manière-là, par contre, probablement pas. Chaque année, il y a des équipes qui travaillent, qui trouvent des nouveaux sites, des nouvelles choses. Et chaque fois, on peut remettre en question ce qui se faisait avant, tu vois. Donc, on remet au goût du jour. On a choisi, par exemple, d'utiliser de faire du chevillage, parce que c'est pertinent. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a retrouvé sur des sites, dans des zones justement humides, on a retrouvé des sites où il faisait, il y avait des encastrements mi-bois avec du chevillage. Donc, et de cette période-là, bien sûr. Donc, du coup, bah, c'est pertinent de pouvoir le faire. Après, ils ont probablement utilisé des chevilles, tu vois, sur des encastrements. Est-ce qu'ils en ont utilisé autant que nous? Probablement pas. Faire autant de chevilles, faire autant de trous, ça demande un certain temps. Alors, je sais pas, est-ce qu'ils ont choisi... un mélange entre le cordage et le chevillage, probablement, tu vois. Et puis encore une fois, ça dépend ce qu'ils avaient sur place, ça dépend... Il y a tellement de facteurs, tu vois, c'est très difficile à dire. On a fait des choix, voilà, et ça donne ça.
C'est-à-dire que sur ces périodes-là, il y a tellement d'incertitudes qu'une recherche de pseudo-exactitude par rapport à l'état actuel de la recherche n'a pas vraiment de sens, quoi.
Ben non, ça n'a pas de sens. Pour être certain de ce qui s'est fait sur un site, il faut retrouver les choses, il faut les avoir.
À quelques mètres de là, deux bénévoles graissent des peaux de vache qui habillent les tipis du paléolithique. Un moyen de les protéger contre les intempéries et ainsi d'éviter qu'elles ne craquellent. Installés autour de tables de pique-nique, Naillé et Clément frottent les peaux avec des pinceaux gorgés de végétaline.
Normalement, c'est de la cervelle qu'il faut mettre dessus. Étaler dessus. On n'avait pas assez de cervelle pour tout faire, quoi. Donc on a dû passer par la végétaline.
Ouais, c'est...
Tu veux dire que traditionnellement, enfin l'époque que ce tipi doit représenter,
ouais.
Ils utilisaient de la cervelle pour graisser leur peau.
Ou du gras de rognon, ça marche aussi. Du coup.
Et vous n'avez pas cherché à émuler cette technique-là?
On a parlé au plus pressé en fait. Ouais. Mais on a un plan pour avoir des gras de rognon pas chers. Donc maintenant, dans 6 mois, on pourra, voilà. Quand il aura bien passé, bien séché et tout, là, on pourra le rebadigeonner avec du vrai gras, quoi. On s'est dit que c'était pas forcément la peine de réessayer, en fait, au niveau scientifique, des expérimentations, par exemple couper un arbre avec une hache en silex, tout ça c'est quelque chose qui a déjà été fait. Donc on sentait pas forcément le besoin de refaire ça, quoi. L'objectif c'était vraiment plus de reconstruire des habitats même si on n'utilise pas les méthodes de l'époque, mais sur des plans archéologiques. Et finalement, ça nous amène quand même aussi pas mal de contraintes de ce côté-là. Et ça relève un peu de l'expérimental, même si on coupe les arbres à la tronçonneuse, quoi. En fait, il y a plein de trucs dont on se rend compte des problèmes auxquels on fait face nous, par rapport à la construction des maisons ou à l'aménagement des espaces, etc., auxquels les populations auxquelles on se réfère pour ces habitats-là ont dû faire face aussi forcément, quoi. Et donc s'adapter. Et donc ça, c'est des choses auxquelles on n'a pas accès tant qu'on ne fait pas d'expérimentation. Parce que ça relève de quelque chose d'empirique, en fait, auquel on n'a pas accès quand on s'intéresse à la culture archéologique, qui reste une culture matérielle, quoi. Le parc tel qu'il est créé, en fait, c'est un parc qui va rester en construction pendant longtemps, en fait. Il va falloir que ça soit aménagé comme un espace en construction qui puisse être visitable, comme Guédelon, comme ces choses-là, qui finalement sont des ont vocation à rester en fait en construction, et au final c'est les travaux qui sont intéressants, quoi. Bon, alors ici on n'est pas on va pas faire tout exactement avec les mêmes méthodes qu'à l'époque et tout ça, parce qu'on est vraiment dans une visée muséographique que expérimentale, mais les deux vont un peu ensemble, si tu veux. Mais la visée muséographique, c'est vraiment de reconstruire un panorama, un panorama du truc, pour que ça soit, enfin, tout en restant quelque chose de vivant, quoi, pour que le public y ait accès aussi. Alors que l'expérimental, finalement, ça peut être quelque chose que tu fais dans ton coin pour tes propres objectifs scientifiques. Et comme je disais, c'est des choses qui ont déjà été faites, de couper des arbres à la hache en silex. On sait que ça prend vachement de temps, que si t'es tout seul, et ben, t'es un peu dans la merde pour le finir, quoi, tu vois. C'était pas l'objectif, quoi, du truc. Et c'est pareil un peu pour ce qui est des matériaux de construction, le fait d'utiliser des acacias. Alors que l'acacia, c'est un arbre qui arrive ici au 14e ou au 15e siècle et qui du coup se développe à fond, quoi. C'est pas un arbre qui existait à l'époque au néo ou au paléolithique. Voilà. Et pourtant, on a pris le parti de le faire parce que c'est une ressource qu'on a en abondance, en fait, ici. Mais plutôt que de chercher à coller absolument, tu vois, à prendre les essences qui étaient là à l'époque et tout, on a plutôt choisi la démarche de dire bah, non, on va utiliser ce qu'on a sur place, et puis finalement, plutôt que de faire venir des chaînes de 30 km par camion, tu vois, on va plutôt utiliser ce qu'on a sur place, quoi. Donc c'est pragmatique, en fait.
Oui, parce qu'en plus, les chênes que vous pourriez utiliser pour la construction d'ici, vous voulez les garder pour justement rendre ce paysage et rendre ce...
Oui, voilà. Puis c'est carrément des beaux arbres.
Depuis 2015, Archéo pour tous et sa poignée de bénévoles s'est lancée dans la construction d'un archéo-village qui regroupe divers habitats reconstitués, des maisons gauloises jusqu'aux dernières cultures paléolithiques comme le magdalénien, l'asilien ou le béloisien. Un voyage dans le temps sur une dizaine de millénaires où les constructions évoluent en même temps que la végétation environnante. On retrouve Alexandre Brie de Vernay devant sa maison du néolithique ancien pour remonter le temps jusqu'à la fin de l'ère glaciaire.
T'es devant la maison néo. Là, t'es devant les futures plantations du néolithique ancien. Là, un petit peu plus loin, dans la zone tampon entre les deux, t'es dans la période qui représente le mésolithique. Donc si tu veux, c'est un tout petit peu avant le néolithique ancien. Et tu pars, tu redescends un peu plus loin et t'arrives dans le campement béloisien. Puis un petit peu plus loin, le campement asilien. Puis encore un peu plus loin, le campement magdalénien. Tu vois, donc c'est vraiment une balade dans le temps. Au magdalénien, ils font des tipis... qui ressemble pas du tout à ce qui peut se faire par exemple au mésolithique, tu vois. C'est même si pour quelqu'un qui a pas un regard averti, c'est pas flagrant, tu vois. Mais t'as pas le même mode de fonctionnement, t'as pas le même type de chasse, t'as pas le même type de campement. Alors ça peut paraître un peu parfois fugace, tu vois, ce genre de différenciation, mais on va présenter, si tu veux, donc dans le cheminement. Déjà, quand tu arrives dans l'espace du paléolithique, c'est un espace qui n'est pas du tout dans le même environnement. Tu as un projet avec un environnement qui serait proche de celui de la steppe et un campement dedans. Et là, déjà, bon, voilà, là, tu es dans une période tout de suite. Et quand on s'extrait de cette zone-là, tout de suite, on sort d'un environnement... qui est très spécifique et on rentre dans un environnement qui est plus boisé, parce qu'effectivement peu de temps après la forêt commence à pousser et du coup tu vas tomber dans un campement avec un environnement, je te dis, où il y a assez arboré. Puis ensuite tu vas sortir de ce campement là et tu vas arriver sur un autre type d'habitat avec une autre végétation, d'autres choses qui sont représentatives, tu vois. C'est comme ça qu'on va présenter les choses.
Alors Gaulois, ça va être du chêne. Oui, en fait, c'est toutes les forêts qu'on a actuellement, quoi. Bon, évidemment, il faut enlever les acacias, tout ça, mais c'est toutes les forêts, les espèces qu'on a dans nos forêts, quoi. En fait, c'est les mêmes. Au Néo, c'est pareil, c'est les mêmes aussi. Après, il faut imaginer qu'il y avait plus de tilleuls, d'ormes, de frênes, d'espèces comme ça qui sont moins présentes aujourd'hui, quoi. La forêt qu'on a plantée pour l'époque asilienne, donc tout ce qui est tardiglaciaire, donc fin de la période glaciaire, au moment où ça commence à se réchauffer.
C'est
les tipis, voilà, c'est ça. Et au moment où ça commence où le climat commence à se réchauffer, donc avant l'Holocène, la période à laquelle on est maintenant, c'est les espèces pionnières qui colonisent tous les espaces qui étaient avant en steppe. Aride et tout, et du coup c'est du boulot, du pain, des choses comme ça. En fait c'est ça, en fait on essaye de recréer des environnements, mais ça reste un boulot de paysagiste, en fait, de jardinier, parce que du coup on part d'une forêt et puis on essaye d'en recréer une autre, enfin plusieurs autres du coup, sur chaque truc. C'est intéressant, c'est très intéressant, c'est très... ça va être très long.
Et comment est-ce qu'on recrée une steppe dans une forêt?
On peut aller voir. Tu t'en chies, en fait. Tu te fais chier comme un rameur et tu te dis j'aurais jamais dû faire cette connerie. Voilà.
C'est clair.
Voilà comment tu fais. Tu te dis mais putain, mais on est trop cons, qu'est-ce qu'il nous a pris, quoi. Putain. Pas possible. Normalement, en théorie, il faut que tu enlèves toutes les autres espèces et que tu repartes sur une base. Avec une végétation qui correspond à cet environnement que tu veux recréer. Sauf que la steppe, il faut avoir un climat pour avoir un paysage de steppe. Il faut avoir un sol. Et puis tu peux pas isoler un biotope, tu peux pas l'isoler complètement. Qu'est-ce que tu veux ? Il y a des arbres autour, ça se pollinise, il y a des plantes. Donc on va faire un compromis, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer au niveau paysager, on va essayer de créer un espace qui ressemble à la steppe, tu vois, donc ça va. Ça, on peut réussir à intervenir un peu sur l'environnement en trichant, en trouvant des espèces qui se rapprochent, tu vois. On a planté des boulonnins, on laisse pousser du genêt, tu vois, des espèces qui sont robustes, qui craignent pas le soleil, comme là, parce que tu as vu, c'est le cagnard ici. Mais honnêtement, ça va être long, ça va être un combat, ça, pour réussir ça. Mais il va y avoir un campement avec un ou plusieurs tipis, avec un foyer, des zones de débitage où il y aura des expérimentations de taille, tu vois. Et puis petit à petit, on va avoir un espace qui va ressembler à un campement magdalénien. C'est pas un truc qui te saute à la gueule sans avoir un minimum d'explication, tu vois. Il y a, encore une fois, là, faut qu'on soit dans la pédagogie. Faut expliquer tout ça. C'est pas aussi flagrant que quand tu rentres dans une maison gauloise avec un atelier de poterie ou là, on est dans des périodes, c'est plus compliqué, quoi, d'expliquer aux gens.
On se complique pas la vie, quoi. Le but, c'est vraiment de rendre quelque chose qui puisse parler aux gens, sur lequel on peut tenir un discours pédagogique et scientifique, sans forcément aller soigner tous les petits détails pour prétendre à un pseudo-label archéologiquement compatible qui n'existe pas. Enfin, tu vois, c'est peut-être ça aussi la différence entre ce qu'on peut attendre d'une visée muséographique plutôt qu'une visée expérimentale, c'est que l'objectif expérimental, il va être plus tourné vers nous-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche à prouver archéologiquement, scientifiquement, etc. Alors que là, le visée muséographique, c'est vraiment pour le public un support pédagogique et qui puisse faire un peu rêver les gens, quoi, un peu transporter dans d'autres périodes et tout, tu voyages. Donc, c'est ça qui est cool, quoi.
L'archéo-village de Saint-Laurent-Nouan s'étend pour l'instant sur 4 hectares où sont prévus d'ici 10 ans l'installation de 4 campements du paléolithique final et du mésolithique, d'une maison du néolithique ancien et d'un village gaulois fortifié. Encore fermé aux visites du public, l'archéo-village ouvrira exceptionnellement ses portes à l'occasion des Journées nationales de l'archéologie du 15 au 17 juin prochain. Ateliers découvertes, chantiers de fouilles ou de reconstitution, les animations d'Archéo pour tous cherchent à toucher toutes les classes d'âge et ainsi à ramener des publics d'adolescents et d'amateurs à s'intéresser à l'archéologie. Au début des années 2000, un nouveau cadre législatif impose le sondage et la fouille de tous les sites prévus pour des travaux d'aménagement. Les fouilles préventives remplacent les fouilles de prospection ou de sauvetage qui étaient souvent pratiquées par des amateurs éclairés. Résultat, une augmentation du nombre de chantiers, une récolte gargantuesque de données et une professionnalisation du métier d'archéologue.
Alors, c'est une association qui a été créée il y a 30 ans avec pour but, en fait, de faire participer les mineurs aux fouilles archéologiques. C'était un moment où l'archéologie devenait de plus en plus professionnelle. Et en fait, avant, il y avait énormément d'enfants d'adolescents, on va dire, qui pouvaient participer aux opérations archéologiques parce qu'ils étaient emmenés par leurs instituteurs ou par les curés du village, ce genre de choses. C'était eux qui faisaient beaucoup l'archéologie, on va dire, au début du XXe siècle. Et avec le développement de l'archéologie préventive, ça s'est professionnalisé. Et du coup, ça s'est fermé aux amateurs et aux mineurs. Donc l'objectif d'Archéologie pour tous, c'était de renouer un peu avec ce côté plus amateur et plus ouvert à tous, en fait, de l'archéologie.
Et bien, en fait, avant, jusque dans les années 80, c'était vraiment quasiment que des amateurs, en fait, presque. Pas tout le temps, mais beaucoup plus. Même, il y avait des petites fouilles à droite à gauche, il y avait des petites fouilles de sauvetage, c'est-à-dire quelques amateurs locaux. Ils signalaient, à l'occasion d'une découverte au service de l'État, ils avaient l'autorisation, ils allaient sauver, on disait, une petite fouille de sauvetage. Ils faisaient ça, et puis voilà, et c'était parti, et ils faisaient un petit rapport et tout. Ensuite, les lois ont changé, et puis... Et du coup, il y a eu de plus en plus de suivi de tous les chantiers. avec des fouilles systématiques, des diagnostics, et puis ensuite des fouilles systématiques avec tout, sur quasiment tous les chantiers où il y avait des choses à trouver, bien sûr. Et du coup, il a fallu du monde, il fallait salarier les gens, et voilà, ça a changé un petit peu de cette façon-là.
Enfin, le développement de cette archéologie préventive, c'est accompagné d'une professionnalisation, en fait, de la discipline. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a quasiment que des archéologues professionnels, qu'ils travaillent au CNRS, dans les universités ou dans les différentes structures qui font de l'archéologie préventive. Mais voilà, ce sont des professionnels. Et il y a très très peu d'amateurs qui peuvent encore faire des fouilles eux-mêmes. Enfin, les dossiers qui sont demandés pour faire des fouilles, on demande un certain nombre de problématiques scientifiques, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est peut-être moins accessible à des amateurs éclairés qu'avant, où c'était un peu plus souple, on va dire, la délivrance des autorisations de fouilles.
Voilà, c'est ça. C'est le côté professionnalisation qui a fait un peu qui a creusé un peu un fossé entre les deux, qui font qu'il y a quand même moins en moins d'archéologues amateurs.
Qu'est-ce qu'un nouvel afflux d'amateurs, comme il a pu y avoir auparavant, pourrait apporter à la discipline ?
Ah bah, une variété, puis une connaissance aussi des sites locaux. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu une période où il y avait beaucoup de, même les agriculteurs qui ramassent des choses dans leurs champs, etc., qui étaient signalées régulièrement, et on connaissait assez bien. Enfin, les nouvelles découvertes étaient assez vite signalées. Maintenant, ça se fait un peu moins, quoi. C'est moins. Ça fait un maillage du territoire qui est intéressant. Et du coup, aussi, les gens qui trouvent des choses, du coup, ils s'intéressent et ils deviennent aussi eux-mêmes, du coup, compétents sur la préhistoire. Enfin, il y a des agriculteurs, c'est étonnant. Ils se sont renseignés, ils ont lu et ils en connaissent quasiment autant qu'un archéologue professionnel, parce que il n'y a pas de secret non plus, ça se lit, ça s'apprend, c'est comme tout, quoi. Donc, et ça, c'est vrai que c'était intéressant dans les années 70-80, entre les instituteurs, les agriculteurs, les curés, tous ces gens qui s'intéressaient à l'archéologie, qui finalement faisaient un espèce de réseau local d'amateurs, et qui se réunissaient régulièrement pour travailler ensemble, ou qui pourraient échanger leurs données pour faire de la cartographie. Alors ça fait un peu désuet maintenant quand on parle comme ça, mais en même temps c'était très intéressant comme façon. C'était un peu collaboratif, mais sauf qu'à l'époque on disait pas ça. C'était pas à la mode, c'était pas ce genre de... Mais c'était ça en vrai. Voilà. Et donc ça s'est un peu perdu, et peut-être qu'on pourrait retourner sur quelque chose un peu comme ça, quoi.
La professionnalisation entraîne une spécialisation des techniques et des discours, et par conséquent, une relative fermeture du savoir archéologique à l'égard du profane. Par ailleurs, la réglementation concernant l'accueil du public mineur rend difficile la participation d'adolescents aux chantiers de fouilles. Discipline d'amateurs par excellence au cours du XXe siècle, elle est aujourd'hui quasi exclusivement pratiquée par des spécialistes. Les nombreux archéologues amateurs chez les agriculteurs, instituteurs ou curés construisaient un savoir en contact direct avec leur territoire et surtout facilement transmissible, aux jeunes notamment. C'est ce lien qu'Archéo pour tous cherche à retrouver, alors même que jusqu'en 2016, la préhistoire avait progressivement disparu des programmes scolaires du secondaire. La présence de sites de référence à Muide ou d'une nécropole néolithique à une quinzaine de kilomètres au nord de Blois est aujourd'hui totalement méconnue des habitants et largement ignorée des politiques patrimoniales. Lieu de reconstitution, d'expérimentation et d'aménagement paysager de grande ampleur, l'archéovillage remplit à la fois les fonctions de vitrine touristique et surtout de support pédagogique. Un moyen de rendre l'archéologie plus vivante, plus ancrée dans le territoire et donc plus accessible aux non-initiés. Et si des enfants de la France entière se rendent déjà à l'archéovillage, celui-ci reste en revanche un mystère pour les habitants de son département et même de sa propre commune de Saint-Laurent-Nouan. Rendez-vous donc du 15 au 17 juin prochain aux portes ouvertes d'Archéo pour tous pour une visite de cet archéovillage en gestation. C'est la fin de cette 26e émission. Retrouvez podcasts et infos pratiques dans la rubrique Feuilles vives du site studiosf.fr. Chasseuses et cueilleurs, à bientôt.
Un bon fermier découvrit un matin, dans sa basse-cour, une poule fort étrange.
Viens donc, Mehdi, viens donc voir, je croyais aux mains que la noiraude a quelque chose qui la démange. Elle a l'air contente, elle n'a pas l'air méchante, mais pour ce qu'elle chante, j'y comprends rien. Elle fait, tiens, écoute-la, elle fait... Oh, 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 oh.